Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'est une belle journée d'automne. Ils reviennent en camping-car d'un long week-end au bord de la mer. Ils sont partis le matin pour éviter les embouteillages. Ils ont prévu de s'arrêter quelque part au bord de la Nationale pour déjeuner. Ils ne prennent jamais l'autoroute. Vers midi, ils trouvent une petite aire de repos, ils garent le van. La femme fait chauffer la plancha pour une grillade. Une fois dans leur assiette, de leur avis à tous les deux, la viande leur semble un peu fade, tendre mais sans goût. Ensuite, l'histoire ne dit pas qui des deux a repéré en premier les champignons, juste là, à portée de main, sur le bas-côté. L'homme n'a qu'à se baisser. Il en cueille 3 ou 4. La femme est un peu sceptique. Il la rassure en lui disant qu'en les faisant bien griller, ça éliminera les toxines, un peu comme avec la viande bien cuite. La femme les lave, les fait bien cuire, l'homme les mange. Quelques heures plus tard, l'agence de biomédecine est contactée. Un petit comité scientifique se réunit en urgence. Les mangeurs de champignons sont prioritaires. À l'automne, ils sont nombreux. Mais le temps leur est compté avant l'embolie cérébrale. Une première équipe prend l'avion pour prélever. La deuxième enlève le foie empoisonné en attendant. Les deux équipes se rencontrent à l'instant T pour faire la transplantation. La coordination nécessite de la précision. Si le foie du donneur est trop gros, alors le chirurgien le coupera en deux pour l'adapter. L'opération durera des heures, 3, 4, 6, 8. L'imprudent mycophile sera sauvé par ce geste chirurgical d'une précision exceptionnelle. Nous sommes au service de chirurgie hépatobilaire et digestive du Centre hospitalier universitaire de Rennes. Le chirurgien s'appelle Karim Boudjema. Aujourd'hui, le temps d'une transplantation, on écoute quelques histoires racontées par des soignants du service, héros tout aussi héroïques de la vie quotidienne d'un grand hôpital français. Jusqu'à 14h, dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, des histoires racontées par Delphine Saltel.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Il y a deux salles d'opération là-bas au fond, il y a deux salles d'opération ici. Et nous, on va aller dans la salle 3 qui est les salles là-bas au fond. Ce monsieur, il a un petit cancer du foie, hein, dans le là. Le problème, c'est qu'il a une cirrhose au-dessous. Et donc, il va falloir enlever ce cancer sans altérer la fonction du foie. Voilà, c'est la difficulté de cette opération.
La première fois que je suis venue au bloc, je savais que j'allais en orthopédie. Et je m'étais dit, surtout pas une prothèse de hanche. Je suis arrivée, j'en ai fait 2 d'affilée. Et ça s'est bien passé, en fait. Et je pense que j'avais fantasmé, j'imaginais qu'il y aurait du sang, que ça coulerait. Et en fait, on voit rien, les patients sont champés, il y a des drapages opératoires.
On peut inciser ?
Une fois qu'on incise, on est tellement concentré que les choses se font simplement, en fait. Hein. Je pense que moi, j'étais une personne complètement extérieure au bloc et que je fantasmais le bloc en m'imaginant... Je sais pas, je pensais que c'était très autoritaire, que c'était sanglant. Parce que comme c'est secret, c'est fermé, on imagine plein de choses. Et en fait, on imagine plus que ce qui se passe en réalité. Mais...
Je vais dégager un petit peu le foie, là. Et tu vas voir qu'on a un foie qui est très dysmorphique. Hein.
Je trouve que ça devrait être plus ouvert, en fait. Les gens devraient avoir moins peur de venir jusqu'au bloc. Parce qu'il y a des gens qui ont peur, hein, qu'osent pas, mais en fait... On s'y plaît au bloc.
Et ça correspond aussi avec ce qu'on voit à l'entrée de tous les blocs. Bloc opératoire, entrée interdite, c'est un peu comme de passer dans les coulisses du décor, dans les cuisines, dans un restaurant ou dans un grand magasin la nuit, quoi. On voit des choses que les autres ne voient pas. Donc c'est vrai que ça suscite. Alors il y a deux situations, soit il y a de l'intérêt, de la curiosité de la part des gens, et puis il y a aussi parfois du dégoût. Je pourrais jamais faire ça. Il en faut, mais moi je pourrais pas.
Alors, la voilà la tumeur. Hein. La voilà, elle est ici. On est quand même à l'aplomb du pédicule sectoriel antérieur, parce que la veine hépatique moyenne est là. Elle est là.
La vue du sang, la vision des organes, en fait, le fait de couper, les odeurs. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de projections d'imaginaire là-dessus. C'est vrai que la chirurgie estive, quand on ouvre un côlon, ben forcément, ça sent pas bon. Mais il y a aussi les odeurs, les personnes qui viennent pour la première fois au bloc, certains sont surpris par l'odeur par rapport à l'utilisation du bistouri électrique, qui a une odeur un petit peu de chair cramée et qui, pareil, peut évoquer pas mal de choses pas forcément agréables. Quoi.
Comme au barbecue.
Une odeur de viande grillée. Et c'est vrai que ça ramène un petit peu à l'animalité, donc ça peut être un peu difficile parfois.
Vous pouvez baisser la coagulation, s'il vous plaît. Et enlever le spray.
Par rapport au côté interdit, presque un peu sacré, bah, y a toute la tenue qu'on porte. Charlotte, le fait que tout le monde n'y ait pas accès, qu'on y rentre soit avec des portes codées, soit avec des badges, c'est vraiment un accès réservé.
Ouais, je pense qu'on a toutes un petit penchant pour la curiosité, quoi. Ouais.
Je vais dégager un petit peu le froid, là. Et tu vas voir qu'on a un foie qui est très dysmorphique, hein, très différent. Regarde, Fulvio, la taille de ce foie, là, énorme. Je pense que si on veut faire les choses propres et bien et anatomiques, c'est une hépatectomie droite, parce que le foie droit est tout petit, tu vois. Il est tout petit à côté de ce foie gauche, énorme, énorme.
J'ai pris mon premier poste infirmier, j'étais à la Pitié-Salpêtrière, au bloc opératoire de chirurgie digestive et transplantation hépatique, les crèves de foie, pour laquelle j'ai travaillé pendant 6 ans. À ce moment-là, j'étais du côté receveur, c'est-à-dire on recevait un greffon et on le donnait à quelqu'un qui avait une déficience sur le foie, en fait. C'était plutôt dans le sens on va sauver la personne, puisque le foie est un organe vital. Grâce à un nouveau foie, ça lui permettra de continuer à vivre. Ensuite, j'ai travaillé 2 ans en salle de réveil, toujours à la Pitié-Salpêtrière, en neurochirurgie. Là, je suis passée de l'autre côté, puisque cette fameuse histoire s'est déroulée un week-end donc en salle de réveil. On a reçu un appel. Et on était de grande garde, en fait, c'est-à-dire qu'on accueillait les SAMU, les SMUR, et on a accueilli un jeune homme de 20 ans. Alors, au début, on a juste dit « soyez prêts, on va accueillir quelqu'un », mais on ne savait pas exactement ce qu'on allait recevoir comme type de patient, ce qui s'était passé. Et en fait, il s'est avéré que c'était un patient qui a reçu une balle dans la tête, et donc on l'a accueilli au scanner. On a vu que c'était fini pour lui. Et ensuite, on l'a escorté jusqu'à la salle de réveil. Les médecins anesthésistes nous ont rapidement dit que c'était pas pour le sauver. Malheureusement, il était là pour qu'on puisse maintenir ses organes. Et il était en mort encéphalique. Quand on pense à mort encéphalique, on pense bien sûr à l'hôpital, au don d'organes. Donc après, toute la machine se met en route, à savoir... joindre la famille, les parents, les frères et sœurs, savoir ce que pense le défunt. En fait, on a eu un appel de la police judiciaire qui disait finalement, on arrête tout, le don d'organes ne sera pas accepté puisque malheureusement, ce n'est pas un suicide, c'est un homicide. Donc, on ne trouve pas l'arme du crime. Donc, c'est pour ça qu'ils ont conclu que ce n'était pas un suicide. Et donc, du coup, il n'y aura pas de don d'organes, pas de prélèvement possible. On ne peut pas prélever une personne qui a été tuée volontairement. Et du coup, on s'est arrêté. On voyait le jeune homme de 20 ans, donc allongé. Moi, j'étais à la tête, avec du sang partout. Enfin, ça faisait... C'était étrange, ouais. On se demande ce qu'on fait là. Et c'est ça qui m'avait choquée. De passer, en fait, de l'autre côté et de voir, en fait, le côté du donneur. On connaît toute l'histoire, en fait. On ne lit plus l'histoire qu'il y a écrite sur le dossier. Là, on l'a vraiment de plein fouet. On se rend compte qu'on a une personne de 20 ans avec une balle dans la tête.
du sang partout. C'était dur.
Donc, nous avons posé une voie périphérique pour morphine à petite dose en post-opératoire. Nous avons posé une jugulaire externe pour faire face à l'hémorragie. Un cathéter sous clavier pour prendre une mesure de pression veineuse centrale et une artère radiale pour avoir une pression artérielle en continu.
Je mets ça là, dans la rue.
On accueille là le monsieur, il sort juste du bloc, on l'installe. On surveille qu'il peut respirer tout seul ou pas, s'il peut se réveiller. Je lui enlève sa sonde urinaire avant qu'il se réveille aussi. Je profite de faire le maximum de choses. Comme ça après je serai bien prêt pour m'occuper de lui, justement pour l'extuber. Quoi. Tac. Parce que là, il ne va pas tarder à se réveiller. Je suis infirmier en salle de réveil, je fais que des réveils. Je réveille des gens tous les jours. Pour donner une image, c'est comme si c'était un atterrissage. Quoi. Voilà, il faut qu'on lui donne toutes ses chances pour qu'il se réveille tranquillement, dans le calme. Au niveau des muscles, tout est relâché pour la chirurgie. Mais du coup, le monsieur, il ne peut pas respirer tout seul. Quoi. Vous vous réveillez, vous avez un tube dans la gorge, des fois vous êtes attaché, c'est hyper anxiogène. C'est pas toujours bien vécu. Ouais. Quand ils sont un petit peu gênés, on leur fait même des massages. Avec du gel. Quand vous avez eu une grosse intervention, vous êtes 6 heures au bloc, vous sortez, vous êtes tout KO. Généralement, dans votre lit, il y a plein de plis de draps dans le dos, etc. Vous êtes tout groggy. Alors un petit massage avec un gel tonifiant, là, ça fait du bien. Je me souviens, un matin, j'étais venu au boulot, on avait accueilli ici ce que les patients arrivent d'abord en salle de réveil le matin avant d'aller au bloc. Une petite dame qui venait pour un cancer du foie, 55-60 ans. C'était une dame qui était poissonnière. Qui bossait sur un marché, je crois, régulièrement, qui devait pas être loin de la retraite quand même. Elle allait au bloc pour une grosse chirurgie, du coup, c'est vrai qu'elle est un peu tristounette et puis assez anxieuse. Ici, on essaie toujours de prendre un peu le contact avant qu'ils y aillent. Comme moi, je trouve que c'est intéressant en plus, parce que vu qu'on les voit après, ça permet de faire un peu le lien. On a raconté 2-3 blagues, bon, on a dit voilà. Souvent, quand c'est des cancers du foie, c'est souvent sur des suites de cancers du côlon. Il y a eu des particules qui sont parties dans le foie, des tumeurs du foie. Donc c'est des gens qui ont déjà vécu dans un premier temps des périodes assez difficiles comme ça, de chirurgie, tout ça, de traitement de chimio, de radiothérapie, il y a plein de choses. Donc ils ont déjà vécu ça, et là ils viennent pour une deuxième session, c'est reparti.
Comment vous sentez là? Ah ouais, c'est ça. Tout ça. Tout ça,
tu l'enlèves.
Et une fois sur la table, disons, ils se sont aperçus qu'en fait la tumeur était trop envahie. En fait, au lieu de faire une chirurgie, ils ont juste exploré, ils se sont aperçus que c'était trop étendu et que s'ils opéraient, il y a trop de séquelles et qu'il valait mieux laisser comme ça et ne pas l'opérer. Quoi. Ils constatent et ils ont refermé en fait. Donc au lieu de 4 heures, ça avait duré une demi-heure. Et moi, je venais de l'accueillir ici, qu'elle est revenue pas longtemps après. Quoi. Elle, en se réveillant, elle nous a demandé l'heure et elle a bien vu que c'était encore le matin et que ça n'avait pas duré le temps qu'on lui avait annoncé.
Voilà, il a eu un sulfata 30 gamma il y a une heure.
Elle comprend vite qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Quoi. Et là, ça fuse, hein. Il y a plein de questions, plein d'interrogations. Et voilà. Elle est en boucle, quoi. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça se fait que ça n'a pas duré longtemps? Qu'est-ce qu'il y a? Mais nous, on est complètement impuissants là-dessus, parce qu'on peut pas lui annoncer, on peut pas lui dire ce qui s'est passé. C'est à son chirurgien d'expliquer ça, les annonces de diagnostic, c'est pas nous. Quoi. C'est un peu dur de trouver les mots, puis faut discuter avec elle, essayer de la rassurer et tout. C'est vrai que là, c'était vraiment difficile de répondre à ses interrogations en essayant de zigzaguer. Quoi. C'est triste, quoi. Pouvait pas être opéré et nous, moi, là, j'étais complètement impuissant parce que je pouvais même pas répondre à ces interrogations. Donc là, c'est. Là, je m'en souviens, c'était pas évident.
France Culture, les pieds sur terre.
Là, nous prenons une petite pause de 10 minutes. Et ensuite, on va recommencer pour le tour des médicaments. Tout pour les greffés qui ont un traitement à prendre à distance des repas.
Je me souviens d'un jeune enfant qui avait l'âge de ma première fille, 4 ans. Je travaillais en réanimation chirurgicale, donc on accueillait des accidents de la voie publique. Et ce jour-là, j'ai reçu un accident de la voie publique, hein, 3 enfants derrière, les 3 enfants blessés, tous gravement, des traumatismes crâniens assez graves. Et je me suis occupée du deuxième, qui est resté à peu près 2 mois dans notre service. Donc il a été sédaté, endormi, mis sous respiration artificielle, avec, comme on peut dire, des tuyaux un peu partout. Quand la famille est arrivée, son papa et sa mère, ils ont eu très peur de s'approcher de lui et de le caresser, de peur de lui faire mal, et par la peur aussi de voir tous les appareils qui étaient autour de lui. Dès que ça se met à sonner, ils ont très peur, quoi. Et c'est vrai que si on leur explique pas tout, ils touchent pas, quoi. Ils restent à distance. Donc on leur explique qu'ils peuvent le toucher, ça ne lui fera pas mal, qu'il est endormi, donc peut-être qu'il ressentira la caresse et qu'il a des antalgiques, des antidouleurs, qu'il ne sentira pas la douleur, mais que c'était important pour eux et pour lui de pouvoir le toucher pour se dire « oui, il est vivant ». Et puis un contexte familial, 3 enfants blessés gravement, pas dans les mêmes services, un tout petit bébé, un autre qui devait être ado, donc âgé de 14-15 ans, et mon petit qui avait 4 ans. Et surtout qu'avec les circonstances, ils en ont perdu un, le plus grand. Donc et pour un accident bête, ça s'est joué quoi, 5 secondes. Un feu rouge, j'y vais pas, orange quoi. Donc ça devait être dur pour eux, très très dur. Quand on voit ses propres enfants allongés comme ça dans des lits, on perd tout. Ils rentraient le soir, ils n'avaient plus aucun bruit à la maison, plus d'enfants, plus rien quoi. Et donc c'est vrai qu'il fallait gérer la détresse des parents, les enfants et le relationnel, l'amour, nos sentiments à nous personnels, et faire la part des choses entre notre vie privée, notre vie au travail. Moi-même, maman, eh ben, ça fait mal de voir des tout-petits comme ça. On prend toujours un petit peu, ça déteint un petit peu de se dire si ta fille était comme ça, qu'est-ce que tu ferais quoi. Et d'essayer de comprendre aussi les parents, leur détresse, pourquoi ils n'arrivent pas à parler, à toucher leur enfant. Et au fur et à mesure, eh ben, ils ont appris avec nous. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de contacts en réanimation chirurgicale parce qu'on reçoit tout de suite les familles et on fait le tampon un peu avec les médecins, les anesthésistes et le patient. Quand on voit qu'ils ne comprennent pas avec des mots techniques, on va au plus simple, hein, mais avec des mots qu'ils comprennent. Quand l'état est grave, on essaye de leur dire qu'on ne sait pas si demain il sera encore là ou... Ça peut prendre du temps, on va le mettre sous calmant, il va s'endormir tout doucement. Moi, je les prends dans mes bras s'ils ont besoin. Voilà. Parce que c'est un accident, c'était pas prévu, ils se sont pas préparés, donc ça peut arriver à n'importe qui. Quand vous avez une petite dame qui perd son ado de 16 ans à cause d'un accident de scooter, je vais pas la laisser toute seule. Non, elle a besoin d'une épaule pour pleurer. Elle va nous prendre la main ou elle va nous dire « restez avec moi un petit peu ». Et pour mes patients, quand je vois qu'ils vont pas bien, moi, j'ai tendance à toucher les mains, à caresser, hein, pour dire que je suis présente et que s'ils ont besoin, je suis là. On n'est pas des robots. Quand quelqu'un souffre, on souffre aussi un petit peu, même si on fait la part des choses en se disant c'est pas de ma famille, c'est pas moi, mais c'est quand même un patient, donc il faut savoir réconforter. Et au fur et à mesure... Son état s'est amélioré, donc du coup, il a commencé à se réveiller, à bouger. Et les parents ont participé de plus en plus aux soins, au niveau de la toilette, du toucher, des massages de confort, et jusqu'à son plein réveil et des techniquages. Ensuite, il est sorti sur la rééducation. Il a récupéré petit à petit. Quelques mois plus tard, il est revenu nous voir dans le service. Et là, il m'a appelé, bah, Cathy, c'est moi, Twan. Je dis, ah oui, t'es beau maintenant. Et ça, vraiment, ça m'a fait un bien fou. De revoir nos patients après, venir nous voir debout et bien mieux qu'avant. Ça laisse des cicatrices, mais je pense que maintenant, il doit être bon à l'école. Il bouge dans tous les sens, il a récupéré, quoi.
Bonjour, bonjour. 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 Personnel qui vient auprès de vous cet après-midi. Alors, comment allez-vous?
Pas très bien, vous tombez là-bas avec un mauvais bruit.
Moi, je vais prendre la tension, voir si tout va bien quand même.
Comment?
Je vais prendre la tension et la température. Vous avez des nausées?
Ah oui.
D'accord. Est-ce que vous avez des selles?
Oui.
Vous en avez eu ce matin?
Oui.
D'accord. Bon. On attend un petit peu, puis de toute façon, vous avez la poche qui vous alimente aussi. Mais si jamais vous avez envie de quelque chose, même si ce n'est pas aux horaires de repas, vous pouvez appeler, on peut vous donner un dessert, un petit gâteau, ce que vous voulez.
Oui, mais ça dépend qui essaye.
Ah?
Ça dépend qui essaye.
Ah! Bon. Alors, l'attention, vous avez 10,5-7. Bon, et un pouls qui est bien, plutôt. Est-ce que je peux regarder votre ventre? Pardon. La cicatrice est belle. Donc ça, c'est le drain qui est dans le virson, donc dans le pancréas, pour drainer les sécrétions du pancréas. Les rotons, ça donne pas beaucoup.
C'était changé ce matin. Là.
Ça a été changé ce matin?
Oui.
Bah, c'est parfait. Vous avez desserré la main, donc c'est pas bien.
Non,
on va voir la température.
Ah, mais vous allez attendre.
Ouais. Vous allez me le payer un peu cher, hein?
Ah bon?
Ah bah le temps, ça coûte de l'argent maintenant. Hop, attendez, voilà. Je vais noter tout ça, je reviens pour récupérer mon thermomètre. Mmh. À tout à l'heure.
Vous l'amenez dans combien de temps?
Ah bah dans une minute. Je suis juste devant votre porte.
Bien.
Et avant de sortir, la petite solution pour se laver les mains. Bon bah, il n'y a plus grand chose. Je vais voir ça.
Alors c'était quand j'étais en quatrième année de médecine, donc il y a 2 ans, parce que maintenant je suis en 6e année, j'étais dans le service de pneumologie. C'était un soir où j'étais partie tard, il était 19h30, quelque chose comme ça. Et dans l'après-midi, j'avais un patient qui était rentré pour un cancer du poumon, qui depuis 2 jours crachait du sang, une personne de 50 ans, donc à l'âge de mes parents, quoi. Donc j'avais été le voir, j'avais été l'interroger, faire l'examen clinique dans la journée, il allait bien, il crachotait un peu, mais... Ça se passait. Il était bien en bonne forme quand même. Hein. On n'aurait pas pensé qu'il était malade. Et puis, donc j'étais en train vers 19h de terminer de faire son observe pour la visite du lendemain pour bien présenter au chef. Et on a été appelé par une infirmière qui nous disait bah, là, ça va pas, il commence à recracher du sang. Voilà, donc on est arrivé. Dans la chambre, il y avait déjà un haricot. Les haricots, c'est des petits réceptacles. Ça peut contenir 1 ml quand même, qui avait été craché. Il y avait du sang partout. Et voilà, il y avait beaucoup de monde autour du patient de l'équipe qui tenait la main au monsieur. Et on sentait le monsieur commençait déjà à vomir beaucoup, enfin à cracher beaucoup, beaucoup de sang. Et il était très paniqué. Voilà, donc on a appelé le réanimateur. Et en fait, le temps qu'il arrive, le temps qu'on aille chercher de l'aide, j'ai vu le patient sentir qu'il arrêtait de respirer parce qu'il m'a regardé. Il s'est mis à taper sur son thorax en demandant qu'on fasse quelque chose. Et mais il m'a regardé moi, du coup. Enfin, l'image qui est marquée, c'est lui qui me regarde et qui nous montre que là, il ne peut plus respirer, il ne peut plus parler. Et il était là, il nous demandait de l'aide et on ne pouvait rien faire. Puis moi, en tant qu'étudiante, j'avais un peu toutes les idées dans ma tête qui se mélangeaient. J'avais pas du tout fait de réa, encore jamais. Enfin, je savais pas du tout ce qu'on pouvait faire ou pas. Et en fait, il y a eu une personne de l'équipe qui a dit « il respire plus, il faut faire quelque chose ». Et en fait, le temps que l'équipe de réa arrive, il était déjà inconscient. Ça va vite, hein, en quelques minutes. Ils ont fait un massage, ils ont essayé de l'intuber, mais il y avait beaucoup trop de sang, et voilà. Je l'ai vu, en fait, ça s'est terminé comme ça. Enfin, c'est un peu rude, mais que ça puisse se terminer aussi vite, en fait, sur quelqu'un qui était jeune et qui allait bien quelques heures plus tôt. Donc, sur le coup, je sais que je suis allée courir dans les toilettes pour pleurer parce que c'était trop d'émotion. Je pensais qu'on aurait pu faire quelque chose, et ce qui était dur, c'était de se sentir impuissant, en fait. D'avoir l'impression qu'on sert à rien finalement, c'est nous qui sommes censés avoir la connaissance de la maladie, de comment soigner les gens, et finalement on s'est retrouvés là et personne, on était nombreux dans la chambre et personne ne pouvait rien faire. Et ça, c'est une prise de conscience qui était assez dure.
C'est la famille qui vient d'avoir
Ça a été mieux après quand le chef de service m'a expliqué que de toute façon, on ne pouvait rien faire face à ce genre de situation. C'est des situations qui sont décrites dans les livres et qu'il n'y a rien vraiment à faire. Ça s'appelle une hémoptysie cataclysmique. C'est comme ça qu'il crache du sang d'un coup, beaucoup, 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 beaucoup de sang. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on a envie de se dire pourquoi j'ai rien pu faire, pourquoi on n'a pas pu le sauver, il était jeune. C'est vrai que j'ai eu du mal un peu, et j'en parle encore après, c'est du fin. Ça arrive d'un coup en fait. Donc, mais ce qui est dur, c'est de se dire que je l'ai vu il y a une heure et il allait bien.
Allô ? Vous êtes qui par rapport à madame ? Vous êtes. Oui. Et vous l'avez parlé de quand la dernière fois ? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Justement, il était prévu qu'on aille la chercher vers 13h pour la ramener dans la chambre. Mais finalement, elle reste en salle de réveil en surveillance parce que les constantes ne remontent toujours pas. Donc ils vont la garder un peu plus en salle de réveil. Non, salle de réveil, non. Si elle reste en salle de réveil, c'est qu'elle peut pas parler. Soit elle doit être fatiguée ou... je n'y suis pas, donc je ne sais pas ce qui se passe en salle de réveil. Voilà. Donc si vous voulez, je pourrais rappeler tout à l'heure pour avoir un peu plus de nouvelles. Ou si vous pouvez rappeler le professeur pour... dans ce cas, il faudra rappeler dans le service d'ici trois quarts d'heure. D'accord ? De rien, au revoir.
Os livros na estante já não tem mais. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta a não ser a vontade de te encontrar. Motivo eu já nem sei, nem que seja só para estar ao seu lado, só para ler no seu rosto uma mensagem de amor.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec L'Hôpital et ses fantômes, une émission diffusée pour la première fois le 4 décembre 2014, signée Delphine Saltel et réalisée par Thomas Jost. Merci au professeur Karim Boudjema, aux équipes qui travaillent dans ce service, au bloc opératoire du CHU de Rennes, à Cécile Boisse et à Laurence Châtaignier. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Nul ne l'ignore, j'espère.